avec Cossonay. C'est assez intéressant de voir comment le Seigneur conduit les choses. J'espère que je ne serai pas gêné, j'ai un chat dans la gorge, ça ne m'arrive jamais, on va le chasser. Il y a quelques années, au pays d'en haut, j'ai pris une jeune fille en stop, et pour la mettre en confiance, des fois qu'elle se dise « qui c'est ce gars, qu'est-ce qu'il me veut ?», je me suis présenté en lui disant que je suis pasteur. Quelle ne fut pas ma surprise quand, avec un joli accent espagnol, elle me posa la question « quels animaux ?» Eh oui, alors j'ai pas dit des chèvres, mademoiselle, des chèvres, non, non, des gentilles brebis. Avant de devenir une fonction ecclésiale, cette jeune latino me rappelait qu'un pasteur est d'abord un berger en charge d'un troupeau. Alors dans ce jour où vous allez confirmer mon cher Johan dans cette charge et demander sur lui et sa famille la bénédiction de Dieu, nous allons nous mettre à l'écoute d'une parole de Dieu qui est justement adressée à des bergers d'âme. Alors oui, tu l'as dit Corinne, j'ai eu la joie de participer à l'engagement, merci, ça c'est, devine mes besoins, à l'engagement de Johan comme pasteur jeunesse, et puis à la fin de son parcours, ben, il a fait une année avec moi, à 60% comme stagiaire, et je crois qu'on peut dire qu'on s'est bien entendu. Tu confirmes Johan ? Très bien entendu. D'ailleurs, j'étais très heureux quand Rolf m'a téléphoné pour me demander des références, de pouvoir dire tout le bien que je pensais de Johan. Alors, merci d'afficher le texte de 1 Pierre 5. Super, merci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors j'aborderai cette... Moi je suis au cours de la génération, on nous a appris à faire des prédications en trois points. Et le premier, c'est le défi de la fonction. Deuxième, le dépouillement dans l'action. Et puis je terminerai en parlant de la source de la motivation. Baissez le trou... C'est étonnant, c'est par ce vieux verbe désuet que nous pouvons accéder au cahier des charges du pasteur, et vous allez le voir, il est costaud. Soit dit en passant, j'ai remarqué que les versions modernes utilisaient la gentille expression « prenez soin du troupeau ». C'est joli, mais ça, non, le pasteur n'est pas juste une gentille nounou qui prend soin d'un petit troupeau apeuré. Vous verrez que derrière ce mot désuet, le verbe paître, il y a un cahier des charges plein de défis. Vous savez, en grec, c'est le verbe est directement tiré du mot berger. Un peu comme si on disait enseigner, enseignant, enseigner ou pilote, piloter. Dans le fond, Pierre dit à ses responsables de communauté, berger, faites le job des bergers. Alors heureusement pour nous, c'est un métier qui ne nous est pas inconnu dans l'Écriture. C'est une figure, la figure du berger parcourt toute l'Écriture. Et on peut repérer les éléments suivants sur le rôle du berger et ses nombreuses responsabilités. Alors vous le savez, le berger commence par rassembler son troupeau, le troupeau qui lui est confié. Ensuite, il le dirige et le conduit pour que celui-ci trouve sa nourriture et son eau. Mais imaginez, si vous êtes berger dans les Alpes et que le brouillard recouvre la montagne et ses pièges, la responsabilité devient importante. Et puis, croyez-vous qu'à la vallée de Joux, s'il y avait des bergers, les loups pourraient faire autant de ravages parmi les troupeaux ? Non, le berger, quand il est présent, il veille sur les prédateurs. Et puis, on le sait, quand la météo se gâte, le berger va avoir soin des brebis qui ont mis bas et il va rentrer les agneaux dans la bergerie. Et finalement, quand la transhumance est finie, le berger doit rendre le troupeau au propriétaire, il doit rendre des comptes. Vous voyez, par ces éléments, on réalise que le métier de berger est un métier d'une grande envergure. Les responsabilités pastorales sont importantes. C'est un métier dans lequel on a charge d'âme. C'est redoutable. T'es sûr que tu veux signer, Johan ? Réfléchis encore un petit moment pour réfléchir. Hein. Donc, être pasteur, mes amis, c'est entrer dans une mission dont l'envergure nous dépassera toujours. Qui peut dire, moi, je suis sûr de répondre à 100% à tout ce cahier des charges. Alors, j'ai envie de vous dire, chers membres de cette communauté, prenez soin de Johan et de sa famille pour qu'il puisse durer dans cette charge. Vous savez, je le dis en passant, il y a des églises qui bouffent du pasteur. Et pour être aussi dans la commission des ministères, ça nous fait souci. Et on sait que vous n'êtes pas une église qui mangeait du pasteur. Alors, voir que Johan est dans ce cadre. Le dépouillement dans l'action. Après le savoir-faire vient le savoir-être. Et mes amis, il y a un sacré paradoxe dans ce texte. Pour conduire et prendre soin de son troupeau, de l'Église, le pasteur ne peut pas recourir au levier traditionnel du pouvoir, soit l'autoritarisme, la contrainte, la domination. La parole de Dieu le dépouille, il y a une forme de dépouillement de ses moyens humains de gouvernance. On entend parler maintenant de la situation chez Twitter, comment le grand patron vire des centaines de personnes, même des milliers. Eh bien, le pasteur est dépouillé de ces leviers normaux qui sont utilisés dans le monde quand on est en position d'autorité. Et elle le fait entrer dans le registre de l'exemple, du témoignage. À ses responsables de communauté, l'apôtre Pierre dit ceci, « Soyez les modèles du troupeau ». Et ça me rappelle une parole libératrice qu'un collègue plus âgé m'avait donnée. J'étais face à une situation dans l'église qui était difficile et je me disais, mais comment on pourrait mettre au pas cette personne qui blesse d'autres brebis? Et ça arrive dans une communauté où une brebis a des comportements qui blessent des plus faibles. Et comme pasteur, on en souffre. Et parfois, on ne sait pas comment prendre les choses en main. Et ce pasteur m'avait dit, Jean Blaise, nous ne sommes pas des directeurs de conscience, nous sommes des témoins de la grâce. Et il y a une forme de dépouillement où on laisse le Seigneur agir, on va prier. Donc, être témoin de la grâce, c'est renoncer au levier de l'autoritarisme. C'est rester un exemple dans l'adversité. Johan, je l'ai découvert, tu aimes le Seigneur Jésus, tu es intègre. Et tu manifestes un vrai esprit de service. Alors en marchant devant la communauté avec de telles attitudes de cœur, tu feras grandir le royaume de Dieu. Ce n'est pas le chemin le plus facile, ce n'est pas le chemin le plus rapide, mais c'est celui qui porte les meilleurs fruits dans la durée. Prenons pas de raccourcis. Un dernier mot concernant cet appel à être modèle. Je ne crois pas que Pierre pose sur les épaules de ses responsables le joug de la perfection morale. Pas plus qu'il leur demande de devenir des chrétiens exceptionnels. Là aussi, je me rappelle, et je pense que tu t'en rappelles, Steve, d'un autre pasteur qui nous disait, un modèle pour une brebis, c'est pas un spécimen de 2 mètres. On veut tellement, tu te rappelles? C'est une autre brebis. Intéressant, hein? On veut tellement nous mettre des modèles inaccessibles. Non. C'est une autre brebis. Mais c'est une brebis qui est modèle dans sa manière de suivre le berger. Nous devenons des modèles inspirants quand nous incarnons les valeurs du royaume. Quand dans l'épreuve, nous nous accrochons au Seigneur. Quand nous osons nous montrer vulnérables. Quand nous choisissons de prendre un balai, alors que notre position d'autorité pourrait nous faire dire « il y en a d'autres qui vont faire ce job ». Alors Johan, reste authentique dans ce que tu vis. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus puissant. Continue à montrer que dans ta vie, c'est Jésus qui fait la différence et non pas tes ressources humaines qui sont belles et nombreuses, mais c'est Jésus qui fait la différence. Je viens de mettre en tension à la fois les grandes responsabilités du ministère pastoral et une forme de dépouillement dans l'exercice de cette responsabilité. Pour le dire autrement, la parole de Dieu confie un rôle de cadre, comme on dirait dans nos entreprises, au pasteur, mais en lui demandant d'emprunter les chemins de la douceur, de l'humilité, du service. Et ça va même plus loin. Pierre leur demande à ses anciens, ses pasteurs, de vivre leur ministère avec enthousiasme et passion. Le terme français dévouement ne rend pas bien cela. C'est au verset 2. On trouve dans l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 15, ce terme qui est traduit par vif désir. Il y a un élément de passion dans l'exercice du ministère pastoral. Il est demandé une passion. Alors ma question, elle est redoutable. Comment faire pour être renouvelé dans un ministère si exigeant? Comment garder un enthousiasme et ne pas devenir un mercenaire fatigué par son troupeau? Je suis à proche de la retraite, donc encore 2 ans. C'est quelque chose que je dois travailler, rester enthousiasmé dans son ministère et pas se focaliser sur les choses qui vont moins bien, comme notre sœur l'a dit, essayer de toujours cultiver les perles. Vous savez, cette question de durée dans le ministère, c'est une question très pertinente. Nous avions notre retraite pastorale début de semaine, et on nous disait qu'aux États-Unis, un pasteur sur 10 seulement arrive à la retraite. Avec Steve, on est des spécimens. Quand on apprend, on était aux États-Unis. Les gens décrochent avant. Et quand on apprend dans la même étude que 50% des pasteurs sont écrasés par leur charge. Pour la petite histoire, ils ont fait des sondages dans les églises en disant, d'après vous, à quelle tâche et à quel taux horaire votre pasteur devrait être occupé par semaine. Et on arrive, mes amis, à 114 heures quand on collecte ces sondages. Alors là, si vous voulez tuer votre pasteur, vous mettez toutes ses attentes sur ses épaules. Alors, où est la source, mes amis? Où est la source de la motivation pour celui et ceux qui ont la charge d'une communauté? Alors, je vais utiliser une parabole. J'aime les paraboles, ça parle beaucoup mieux que des grandes théories. Et je vais demander à vous, parents de petits-enfants, de réfléchir à ce que je vais dire, et à vous qui avez été parents, peut-être vous êtes aussi grands-parents. Alors imaginez, chers parents de petits-enfants, peut-être des enfants de l'âge de tes enfants, Johan, imaginez que vous deviez partir au minimum une année, peut-être 2, mais sans pouvoir prendre vos petits chéris avec vous. Vous devez quitter en laissant vos enfants, ceux que vous aimez tellement. Vous devez les confier à quelqu'un. D'accord, vous ne pouvez pas les laisser seuls dans l'appartement. Mais vous allez choisir quelqu'un de tout proche. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un en qui, mais vous avez une totale confiance. Vous êtes d'accord, les parents? Pour cette personne choisie, mais quel honneur! Oui, quelle responsabilité, mais quel honneur! Eh bien, dans son absence, C'est ce que fait Jésus en confiant l'Église, son épouse, son corps, sa famille, aux bons soins des pasteurs et des anciens. Et si on met ça en perspective, c'est ça que ça veut dire. Jugez plutôt. Pierre, dans ce texte, a soin de préciser que le troupeau concerné est celui de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel troupeau. C'est celui de l'Éternel. Et puis, il utilise une expression forte pour dire que c'est un honneur de se voir confier ce troupeau. C'est l'expression « ceux qui vous sont échus en partage ». Et là, c'est un terme qui, ailleurs, est traduit par un lot ou par un héritage. C'est quelque chose d'important. Cher Johan, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a appelé au ministère pastoral. Et tu t'es formé avec sérieux pour cette responsabilité. Aujourd'hui, il confie à tes soins une partie de son peuple. Ce peuple qu'il aime, qu'il a avec la même tendresse que tu aimes tes deux petits. Ce peuple qu'il a racheté au prix de sa vie. Cela dit quelque chose de fort et de très encourageant sur le regard que le Seigneur a sur toi, Johan. Il t'apprécie et il te fait une sacrée confiance. C'est extraordinaire. Alors que ce soit toujours la source de ton service, de ta motivation. Et quand un jour tu seras fatigué, tenté de mettre tout ce qui est négatif, reviens à cette parole. Jésus, dans son absence, me juge digne de sa confiance en me confiant ce qu'il a de plus précieux sur terre. Waouh, ça donne la force. Et je termine en disant, chère communauté, en recevant Johan Salzac comme votre pasteur, et mon cher Steve leur dira, vous recevez un cadeau du Seigneur. Et pour que vous ne perdiez jamais cela de vue, je vous invite à prier très régulièrement pour lui et sa famille. Comme d'ailleurs, j'invite aussi chaque conjoint à prier pour son épouse ou son mari, c'est tellement important. Mais priez pour Johan, Clarisse, les enfants, le plus régulièrement que vous pouvez. Et demandez au Seigneur qu'il les garde, qu'il les bénisse, qu'il les protège. Parce que je peux vous dire, comme pasteur, on est des fois au cœur d'un combat spirituel. Et voilà, on peut vivre des choses très douloureuses, et on ne sait pas ce qui se passe dans les lieux célestes. On a besoin de la protection, de la prière et des frères et sœurs. Alors bénissez-les, dites merci pour leur service et proclamez sur eux le nom de Jésus afin qu'ils soient gardés et renouvelés. Amen.